Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi de temps en temps certaines personnes quittent l'Église? Pourquoi elles ne veulent plus entendre parler de la vérité? Mais c'est quoi la vérité? Comment on peut se détourner de la vérité une fois qu'on l'a trouvée? Et c'est vrai. Autrement dit, lorsque vous avez trouvé la grande perle, la belle perle que vous cherchiez, pourquoi l'abandonner? La vie est pleine de surprises pour tout le monde, certes. Mais nous qui sommes appelés par Dieu et que nous avons enfin trouvé la vérité, comment pouvons-nous vraiment nous détourner de la vérité? Comment abandonner quelque chose que vous avez cherché? Ou encore, comment vous détourner de quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur? Ce sont des questions qui sont importantes. Mais la chose la plus importante en ce qui me concerne, quelles sont les raisons, je répète, de ceux qui quittent l'Église? Comment pouvez-vous quitter l'Église lorsque vraiment vous la cherchiez? Voyez-vous, se détourner de la vérité, ce n'est pas possible pour quelqu'un qui cherche de la vérité. Et surtout, et c'est une question importante, que faire, comment faire pour ne pas vraiment perdre cette vérité une fois que vous avez l'esprit un peu détourné ou corrompu, je dirais. Dieu nous a appelés pour quelle raison? Pour réussir, c'est normal. Et ceux qui quittent l'Église, pour quelle raison? Ce n'est pas pour la réussite, non, pas du tout. Parce que pourtant que Dieu vous appelle afin que vous puissiez entrer dans son royaume, afin que vous puissiez accomplir la raison pour laquelle vous avez été appelé, avec la même ténacité, je dirais, Satan le diable fera tout pour vous faire échouer, pour vous faire détourner de la vérité. Voilà pourquoi je commence ce sermon en disant, comment est-ce qu'on peut quitter l'Église? Comment pouvez-vous quitter l'Église de Dieu lorsque nous l'avons enfin trouvée? Dieu nous donne, je répète, toute l'aide nécessaire pour réussir. Et par contre, Satan fera tout ce qu'il peut pour que vous puissiez échouer. Nous avons donc un choix entre les deux. Si, dans le passé, je vous ai dit que nous avons tous trois ennemis en ce bas monde, des ennemis qui sont mortels, par exemple, je vous ai même donné des exemples, mais de toute façon, vous savez bien que ces trois ennemis, d'abord c'est Satan le diable. Satan est capable de faire beaucoup de choses parce que c'est un être qui a beaucoup d'esprit, pas de la bonne façon, mais un esprit méchant. Et il sait comment se rebeller parce que Satan s'est rebellé en premier. Donc, le premier ennemi que nous avons en ce bon monde, c'est Satan le diable. Bon, et je répète, il est très puissant. Ensuite, le deuxième ennemi que nous avons, c'est le monde autour de nous. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez partout la saleté, de la corruption. Vous voyez partout de la jalousie, de l'adversité. Vous voyez partout, je dirais, tout ce qui est contraire aux lois divines. Ce sont là des vérités absolues. Voilà, nous sommes donc en ce bon monde. Nous sommes d'abord attaqués par Satan le diable et ensuite par le monde autour de nous parce que le monde autour de nous n'a pas trouvé la vérité et le monde autour de nous va justement après les astuces de Satan. Voilà pourquoi, voyez-vous, il est difficile, je dirais même impossible lorsqu'on est sincère, de se détourner de la vérité une fois qu'on l'a trouvée. C'est Satan le diable qui fera tout pour vous décourager, d'accord? Mais si vous êtes vraiment honnête avec Dieu, si vous êtes vraiment proche de Dieu, vous ne vous laisserez pas tenter par Satan. Voilà pourquoi, je répète, je parle maintenant des trois ennemis, ce n'est pas le sujet de mon sermon. Le sujet de mon sermon, c'est autre chose, mais je voudrais quand même que vous puissiez savoir que le premier ennemi, c'est Satan, le diable. Ensuite, c'est le monde autour de nous avec cette tentation, avec cette corruption, avec cette rébellion même. Et troisième ennemi, vous savez qui c'est? C'est vous-même. C'est votre nature humaine. chacun est son propre ennemi. Mais je répète, ce n'est pas ici mon sujet. Maintenant que nous savons qu'il y a trois ennemis en ce bon monde, je répète, Satan, le diable, le monde autour de nous et nous-mêmes, et maintenant parlons des pièges, les pièges que ces ennemis nous dressent. Ça, c'est mon sujet. Je parlerai aujourd'hui des trois pièges seulement que ces trois ennemis nous dressent. Il y en a plus que trois. Mais lorsque vous réfléchissez bien, vous verrez que ces trois ennemis vous dressent des pièges. Et dans les trois pièges, je dirais, vous pouvez voir que Satan joue le plus grand rôle. Vous savez pourquoi? Parce que il contrôle tout, il contrôle votre nature humaine en quelque sorte lorsque vous cédez à lui. Il contrôle en quelque sorte le monde lorsque le monde cède à lui. Et en même temps, Satan contrôle, je dirais, les activités et vos sentiments, votre orgueil. Regardez voir comment l'apôtre Jean a commencé à dire, à décrire la puissance de Satan. Il dit dans l'Apocalypse, Jean dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 10, il est précipité, le grand dragon. Regardez voir les titres que Satan a déjà. C'est le grand dragon, le serpent ancien, parce qu'il s'est montré au premier couple en tant que serpent, appelé le diable. Beaucoup de gens aujourd'hui, de par le monde, ignorent que Satan, le diable, n'était pas, au début, un serpent, comme on l'appelle. Au début, Satan, le diable, était un archange. Très élégant, très beau, pour ainsi dire, très capable de faire beaucoup de choses. Et il jouissait de la grandeur, de la puissance, jusqu'au moment il est devenu jaloux de Dieu, parce qu'une fois, voyez-vous, lorsque vous avez dans le cœur cet esprit de jalousie, cet esprit de fausse grandeur, alors il voulait être comme Dieu. Il voyait autour de lui Dieu, le Christ, il voulait être comme eux. Il voulait être aussi grand que eux. Il voulait être Dieu. Donc cet archange qui avait toute puissance, qui avait toute beauté, qui avait toute intelligence, tout d'un coup est tombé. Et pourquoi il tombait? À cause de sa vanité. Il voulait être comme eux. Il a été précipité. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Jean écrit, « Celui qui séduit toute la terre fut précipité sur la terre. » Il a été précipité. Écoutez, c'est la folie que de vouloir se mesurer avec Dieu. Automatiquement, déjà, Satan était vaincu dès le début. Mais il avait perdu l'intelligence. Il ne savait plus que sa vanité l'a ruiné. Votre vanité, mes frères et mes sœurs, vous ruine. Votre nature charnelle, à moins qu'elle soit soumise à Dieu, va vous ruiner. C'est pourquoi je dis que lorsque Satan le diable vous tente, soyez sur vos gardes. Je continue. Donc, Satan fut précipité sur la terre, et avec lui donc les anges qui sont devenus des démons. Et j'entendis, ajoute l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 10, il dit, dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ceci n'est pas encore arrivé. Autrement dit, le salut arrivera en ce moment monde lorsque Satan sera enchaîné une fois pour toutes. Pour le moment, à l'heure actuelle, Satan est encore libre. Il peut séduire les gens. Il peut vous séduire, me séduire, si nous le laissons nous séduire. Donc, je vous dis ouvertement, et je sais, chaque homme doit lutter avec l'aide de Dieu. Donc, ne laissez pas Satan vous séduire. Donc, il lui précipitait sur cette terre. Ensuite, Jean écrit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ce moment n'est pas encore arrivé parce que lorsque le Christ reviendra sur cette terre, c'est à ce moment-là que Satan sera enchaîné et que le salut sera arrivé. La puissance est le règne de notre Dieu, voyez-vous. Jean explique, la puissance de notre Dieu arrivera lorsque le Christ reviendra sur cette terre. parce que Satan a été précipité. Nous avons vu déjà dans ces quelques versets que Satan, c'est le diable, Satan, c'est le grand dragon, Satan, c'est le serpent. Mais ici, regardez voir comment Satan est encore nommé. Il a été précipité qui ? L'accusateur de nos frères. Voilà comment Satan est nommé ici, l'accusateur. Car voyez-vous, il est plus facile pour Satan de séduire quelqu'un dans le monde que quelqu'un dans l'Église. Voilà pourquoi, je répète, lorsqu'on a vraiment la base en ce qui concerne la vérité et les pieds sur la terre, et que nous comprenons, nous connaissons, nous savons que Dieu est avec nous, il est difficile vraiment de nous détourner de Dieu, sauf de suivre le chemin que Satan a suivi. L'orgueil, la vanité. Donc, Satan, c'est l'accusateur de nos frères. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vous dis souvent, lorsque vous accusez quelqu'un, vous êtes instrument dans les mains de Satan. Lorsque vous parlez mal de votre prochain, vous êtes automatiquement entre les mains de Satan. N'accusez personne. Si quelqu'un vous a fait tort, du tort, laissez Dieu se venger à votre place. Dieu est plein de bonté, plein de sagesse. Dieu sait comment agir. Laissez Dieu agir. N'accusez personne. Ne blâmez personne. Soyez un instrument entre les mains de Dieu. Ici, l'apôtre Jean décrit encore Satan le diable en disant « l'accusateur de nos frères qui accusait devant Dieu les frères quand ?» Une fois, deux fois, trois fois, non. Qui accusait devant notre Dieu jour et nuit les frères. Autrement dit, Satan ne se repose pas. Satan veut absolument détruire parce qu'il a été, lui, l'ange principal, l'archange. Il a été, lui, précipité. Il a perdu tout. Alors, c'est la jalousie parce que lui, il a tout perdu. Il veut que nous perdions tout. Ne le lui permettez pas cela. Ne le laissez pas agir ainsi. Vous êtes, vous, appelés par Dieu le Père. Vous êtes, vous, appelés pour réussir, pour être membre de la famille divine. Ne perdez pas cette couronne. Quelles que soient les accusations de Satan, vous suivez toujours le chemin que Dieu a tracé devant vous. Une fois que vous comprenez cela, une fois que vous savez que Satan est toujours là, attention à ces pièges. Et je dis, je prendrai aujourd'hui trois pièges de Satan seulement. Il y en a plusieurs. Mais lorsque vous comprenez que chaque piège est pour vous une façon de vous détourner de Dieu, alors ne perdez pas votre temps à penser comme Satan voudrait que vous pensiez, à faire comme Satan voudrait que vous puissiez faire les choses. Je répète, vous, lorsque vous connaissez la voie divine, restez-y. Autrement dit, ne vous détournez pas de la voie divine. La voie divine est pour votre salut. La voie de Satan, c'est pour votre perte. Et vous savez quoi? Nous avons le choix, tous, tout le monde. Je n'ai pas plus de chance ou bien plus d'opportunités de réussir que vous. Nous avons tous une lutte à livrer. Cette lutte, c'est grâce à la puissance de Dieu, la lutte dans la bonne direction. Et si nous faisons donc notre part, nous devons être absolument certains et convaincus et absolument, je dirais, absolument convaincus que nous réussirons. Alors, le choix est devant tout le monde. Il y a donc deux choix devant nous. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, en disant « Nul ne peut servir deux maîtres. » Et pourtant, nous sommes dans ce monde, automatiquement, nous avons le choix de servir entre deux maîtres, ou le Christ, ou Satan le diable. Le Christ a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » Pourquoi ? Car il haïra l'un. Et Satan voudrait que vous puissiez haïr le Christ, ou il aimera l'autre. Satan ne veut pas que nous aimions le Christ. Car aimer le Christ signifie le suivre. Aimer le Christ signifie faire ce qu'il nous demande de faire. Aimer le Christ signifie marcher main dans la main avec lui. Le Christ ajoute, ou bien il s'attachera à l'un entre deux maîtres et méprisera l'autre. Et le Christ répète, ensuite, maintenant il commence ici, dans ce dernier verset, en définissant qui sont ces deux maîtres. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici, Satan est nommé Mammon, Dieu, le Christ, Dieu le Père en même temps. Vous ne pouvez pas donc servir l'un et l'autre en même temps, ou bien vous servirez Dieu, ou bien vous servirez Mammon. Le choix est à nous. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous regardons autour de vous, regardez, je vous prie, autour de vous, regardons-nous ensemble aujourd'hui. Il y a presque 50 ans que je parle à la radio, en Europe. Il y a presque 40 ans que je fais des conférences publiques. À ce moment-là, je disais aux gens, écoutez, méfiez-vous du présent parce que le présent est mauvais. Parce que Satan le diable rôde autour de nous. Aujourd'hui, après 40 ou 50 ans, c'est toujours la même histoire et encore c'est pire. Pourquoi? Parce que Satan est irrité. Parce que Satan sait qu'il a peu de temps devant lui, donc il fait tout pour pouvoir vraiment secouer les gens, se détourner, les faire se détourner de Dieu et les gens de Dieu, ainsi de suite. Alors, je répète, regardez autour de vous. Vous pouvez voir comment les choses se sont abîmées. Vous ne pouvez pas dire vraiment que le monde aujourd'hui est meilleur qu'il y a 30 ans, non. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui vous avez moins de guerres qu'il y a 30 ans, non. Nous sommes en pleine rébellion, dans un monde plein de rébellion, et ce que nous connaissions il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est encore pire aujourd'hui. Voilà pourquoi je répète, lorsque vous regardez autour de vous, les souffrances augmentent. Les souffrances de par le monde deviennent de plus en plus difficiles parce que Satan le diable aggrave les choses. Il nous pousse à nous détourner de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des guerres. Ce sont des guerres qui empirent. Aujourd'hui, nous avons la saleté en ce monde. Ces choses-là empirent. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez les trois adversaires devant vous, vous comprendrez aussi qu'il y a trois pièges. J'en prends trois seulement aujourd'hui, que ces pièges sont les instruments que les adversaires se servent pour pouvoir, à nous tous, nous secouer, nous faire éloigner de Dieu. Certes, aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement difficile. Aujourd'hui, alors que je vous parle, le monde est plongé dans la catastrophe économique. Nous le savons tous. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de cela. Aujourd'hui, nous sommes en pleine, je dirais, face à la gueule de lion, pour ainsi dire. D'un moment ou d'autre, une nation peut culbuter. D'un moment ou l'autre, une famille peut faire faillite. C'était du jamais vu auparavant. Pourquoi? Je répète, parce que Satan, le diable, l'accusateur de leurs frères, est en train d'attaquer tout le monde. Quelle est la solution? C'est simple. Lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, quelle est la solution? Il se tourne vers ses parents. Il se tourne surtout vers son papa. Dit papa, aide-moi. C'est exactement ce que moi, nous devons faire en ce qui concerne nos problèmes, nos défis. Lorsque nous avons un problème, adressons-nous à Dieu, demandons à Dieu de venir en aide, demandons à Dieu, écoute Dieu, j'ai des difficultés à vraiment lutter contre Satan, je ne peux pas, je n'ai pas la force, aide-moi. Si vous êtes vraiment, je dirais, honnête, si vous êtes vraiment désireux d'avoir l'aide de Dieu, vous réussirez à moins que vous vous détourniez de la voie de Satan. Le Christ a dû vous rappeler, ou bien vous haïrez l'un, ou bien vous aimerez l'autre. Bon, continuons. Si vous êtes avec le Christ est le tronc d'arbre. Vous vous attachez à ce tronc d'arbre. Vous marchez avec lui dans la main. Vous savez, je vois les petits-enfants, j'aime quand ils marchent main dans la main avec leurs parents, avec leur papa. Ça me fait du bien, je ne sais pas pourquoi. Je sais que l'enfant est tout à fait conscient de ce qu'il est protégé. Il est confiant de ce que son papa le protège, alors il n'a pas peur. Et c'est de cette façon que nous devons nous marcher avec le Christ, main dans la main. Avoir ce même sentiment que l'enfant, et encore plus, et être sûr que le Christ nous aidera toujours, que le Christ ne va jamais nous abandonner. L'apôtre Jean, qui a écrit beaucoup sur le rapport entre le Christ et nous, a beaucoup parlé de cette union entre le Christ et nous, de cet amour entre le Christ et nous, de cette protection que le Christ nous donne. Je vous parlais au début de ce sermon en disant que pourquoi certaines personnes quittent l'Église. On ne peut pas quitter l'Église une fois que nous avons vraiment trouvé la bonne perle. Alors, je vous pose la question. Lorsque vous regardez l'Église, même avec nos difficultés présentes, est-ce que vous pouvez être sûr, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne voie? Vous direz, mais comment est-ce que je sais si je suis dans la bonne Église? La réponse est simple, mes frères et mes sœurs. Vous l'êtes si vous avez fait ce que le Christ vous a dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, après vous être repenti de vos péchés, si vous avez eu l'imposition des mains, et dès ce moment-là, vous êtes dans l'Église. On ne peut pas chercher à gauche ou à droite où est l'Église. Et une fois que vous êtes dans l'Église, vous ne pouvez pas la quitter parce que vous êtes une partie de l'Église. Le Saint-Esprit est en vous. L'Église est là où est le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Voilà pourquoi Jean a écrit, et je cite maintenant Jean 15. Je prends mon temps parce que ce matin, justement avant de faire ce sermon, je me suis dit, mais est-ce que je peux vraiment expliquer en détail ce sujet? J'ai parlé auparavant des trois ennemis. Je parle maintenant des trois pièges de Satan, ou bien de ce monde, ou bien de votre nature humaine. Il y en a plusieurs, je répète, mais je mets l'accent aujourd'hui. Peut-être plus tard, je mettrai l'accent sur d'autres pièges. Mais prenons ces trois pièges. Le Christ a dit, Jean 15, chapitre 15, verset 1 à 4, « Je suis le vrai cep. » Voyez-vous, le vrai cep. « Mon père est le vigneron. » Il n'y a pas beaucoup de vignerons, il y a un seul vigneron dans l'Église. C'est le Père. Et nous sommes qui alors? Nous qui sommes appelés, nous qui sommes dans l'Église. Nous sommes les sarments. Et le Christ a dit, « Tout sarment qui est en moi, donc qui a reçu les esprits de Dieu, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Autrement dit, nous sommes appelés pour porter du fruit. Sans porter du fruit, nous sommes morts. Et Dieu nous retranche. Par contre, tout sarment qui porte du fruit, hein, c'est le Christ qui parle, toujours verset 2, Jean 15, tout sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde. Nous savons ce que c'est que l'émondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est le secret de la vie. Ça, c'est le secret de tous ceux qui sont appelés, afin qu'ils puissent porter plus de fruits. Si nous ne portons pas de fruits, nous mourrons. Verset 3, Jean 15. Déjà dit-il, c'est le Christ qui parle, vous êtes purs. Mais comment nous sommes purs? La Bible dit que nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Notre nature humaine sous l'influence de Satan, d'accord. Nous sommes purs dans ce sens que nous sommes en train de devenir purs par le Saint-Esprit qui est en nous. Chaque jour, si nous nous mettons à genoux, chaque jour, si nous nous, je dirais, convaincrons absolument que le Christ nous aime et nous montre le chemin pour la réussite, nous sommes en train de devenir purs. Bon. Donc, pourquoi sommes-nous purs? À cause de la parole que le Christ a prononcée. C'est ça. C'est quoi la parole? Le Christ a dit, la parole, ta parole est la vérité. La parole du Christ, la parole de Dieu, c'est la Bible. Lorsque nous suivons les instructions divines, nous devenons purs, nous devenons mûrs, nous devenons matures, si vous voulez, et ce faisant, nous avançons de plus en plus. Si vous êtes au Christ, vous respectez les enseignements du Christ. Si vous êtes chrétien, vous respectez les enseignements du Christ. Mais une fois que vous cessez de respecter, vous n'êtes plus dans l'Église. Voilà pourquoi vous quittez, vous partez. Vous partez où? Où irai-je? Comme les apôtres ont dit au Christ. Lorsque le Christ a dit, vous savez, dans Jean 6, il a dit, alors vous me quittez? Pierre a dit, où irions-nous? Voilà, lorsque vous avez tendance à vous détourner de Dieu, pour une raison ou pour une autre, posez-vous la question, où irai-je? Je sais, j'ai parlé à certains de ceux qui ont quitté l'Église. Ils sont allés, vous savez où? Nulle part. Ils sont toujours en vagabondage, pour ainsi dire. Alors, le Christ donne donc la réponse, il dit, verset 4, Jean 15, « Demeurez en moi. » Voilà l'instruction que le Christ nous donne. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le Christ fait une promesse. Le Christ ne ment pas. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Vous savez ce que c'est lorsque le Christ demeure en vous? Vous n'avez pas peur. Pas peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et ensuite, il continue comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, nous devons être attachés au Christ. Si nous sommes attachés au Christ, nous portons du fruit. Ainsi dit-il, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Voilà les instructions du Christ. C'est ici le chemin de la victoire. C'est ici le chemin du vrai succès. C'est ici le chemin, la solution à toutes nos difficultés, à tous nos problèmes. Ce n'est pas facile, je sais. Nous sommes tous humains, nous sommes tous faibles. Et nous faiblissons, et nous, parfois, nous nous décourageons. Mais si vous êtes découragé, relevez-vous, mettez-vous sur vos pieds, tenez la tête haut, les yeux sur le Christ, et vous verrez comment vous aurez cette force. Jusqu'à maintenant, voyez-vous, je parlais toujours encore de ce que nous devons faire, mais pas des trois pièges que j'ai en tête. J'ai en tête trois pièges. Je répète, ça peut être 5, 6, 8, 9, 10, mais prenons trois pièges. Le premier de ces trois pièges, ça peut être, je répète, causé par Satan le diable, ou par votre nature humaine, ou par le monde, c'est la rébellion. Je dis bien la rébellion. On peut se rebeller où l'on en est. À la maison, à l'église, à l'école, en famille, en société, au travail. Donc, la rébellion, c'est quoi la rébellion? C'est le chemin que Satan le diable a pris dès le commencement. Donc, Satan le diable, lorsque vous êtes sur le chemin de la rébellion, il sera votre grande aide. Car il est expert. Il sait comment, lui, il a réussi à séduire le premier couple. Parce que le premier couple s'est rebellé contre Dieu. Dieu avait donné un ordre. La rébellion, c'est marcher contre les ordres donnés. Ça peut être, je répète, en famille, ça peut être dans la société, dans l'Église. Donc, dès le commencement, Satan a planté cet esprit de rébellion dans l'être humain. Dieu avait donné au premier couple tout ce dont le premier couple avait besoin. Tout! Moi, parfois, je me dis, mais ils sont fous, ces gens-là, ces premiers couples. Ils avaient tout. Si, ils avaient tout. sauf une seule chose qu'il voulait avoir et qu'il aurait pu l'avoir s'il avait suivi le chemin que Dieu avait tracé devant eux. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas d'un certain fruit au milieu du jardin. Il ne savait pas ce que c'était, mais il voulait absolument avoir ce fruit-là. C'est idiot, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient tout, je répète, une famille, ils l'avaient, la meilleure. La richesse, ils avaient toute la richesse du monde. Je dirais, il n'y avait rien qu'il aurait pu désirer ou souhaiter. Et pourtant, une petite chose qui n'était rien, mais que Satan a agrandi à leurs yeux, ils voulaient avoir ceci. Ils voulaient avoir l'immortalité. Vous savez quoi, mes frères et mes sœurs? Le monde aujourd'hui prend ce mensonge de Satan, et sur ce mensonge de Satan, l'immortalité a déjà établi toute une doctrine. Toutes les religions de ce monde sont basées sur l'immortalité. Dieu voulait et veut toujours que l'homme ait l'immortalité. Mais l'immortalité ne s'obtient pas par la rébellion. Voilà pourquoi je dis, la rébellion, c'est votre pire ennemi pour échouer. Si vous voulez échouer, suivez le chemin que Satan a suivi. C'était quoi exactement que le couple voulait avoir? La liberté. La liberté, ils avaient déjà, mais ils voulaient avoir la liberté de pouvoir se tourner contre Dieu. Mais ils l'avaient aussi. Par contre, s'il faisait ce que Dieu lui demandait à ce couple, le couple aurait l'immortalité plus tout le reste. Je répète, cette rébellion peut être et dans tout ce que vous faites, en famille. Regardez voir les familles autour de vous aujourd'hui. Regardez voir où en sommes. Pourquoi cette chicanerie entre l'homme et la femme? Pourquoi ces disputes, ces divorces, ces remariages? Pourquoi cette rébellion au centre même de la famille? C'est toujours la même réponse. Parce que l'homme ou la femme ou les enfants se rebellent. Mais écoutez, si chaque membre de la famille se soumettait à l'autre, en Christ, il n'y aurait pas de rébellion. Mais c'est difficile parce que, voyez-vous, nous avons cette nature humaine. Et nous avons Satan le diable. Et nous avons le monde autour de nous. Donc, tout ça, ça nous pousse à suivre ce mauvais exemple. De ce fait, nous n'avons plus la force dont nous avons besoin. Alors, lorsque vous pouvez voir la famille que Dieu a établie aujourd'hui, et vous pouvez voir pourquoi les familles se détruisent aujourd'hui, et vous pouvez constater que dès le moment où nous nous détournons de la voie divine, nous sommes sur la voie qui mène la chute. Pourquoi est-ce qu'on critique? Pourquoi est-ce qu'on accuse? Parce que c'est à cause justement de la vanité. C'est à cause justement de la rébellion. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse avait un frère et une sœur, entre autres, Marie et Aaron, Nombre chapitre 12, versets 1 à 3. Voilà que la famille de Moïse, donc sa sœur et son frère, le critiquent. Pourquoi? D'abord, Moïse était le chef. Il était en autorité. Ni Aaron, ni Marie n'avaient le droit de le critiquer. Mais sur quoi l'ont-ils critiqué? De quoi l'ont-ils accusé? Nous sommes tous fautifs, je répète, nous avons tous commis des fautes. Voilà que Moïse avait épousé une Éthiopienne il y a 40 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Donc, après 40 ans, voilà qu'il se rebelle contre Moïse. Et pourquoi? Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, je répète, il y a 40 ans, et qu'il avait pris donc une femme éthiopienne. Quelle a été la façon dont ils ont attaqué? C'est toujours la même histoire. Ils ont attaqué Moïse en disant, écoute, Dieu se soucie aussi de nous. Dieu veut aussi nous protéger. Dieu est aussi notre maître. Autrement dit, ils veulent dire qu'ils sont tout aussi importants aux yeux de Dieu que Moïse. Dès ce moment-là, vous avez votre rébellion. C'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe lorsque vous regardez autour de vous. Et puis, après, la jalousie. Ils disent, n'est-ce pas que Dieu parle aussi à travers nous? Voyez-vous, tout ça, c'est cette nature humaine qui se rebelle, qui a été inspirée par Satan le diable. Qu'est-ce qui se passe? Voilà que la famille de Moïse l'attaque, et tout d'un coup, alors que son frère et sa sœur s'attendaient à ce que Dieu leur donne raison, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a entendu et Dieu a agi. Ensuite, avant de voir comment Dieu a agi, ici vous pouvez trouver la façon dont Dieu déclare et décrit la nature de Moïse. Je suis sûr que vous avez lu la Bible. Si vous deviez vous décrire la nature de Moïse, comment le feriez-vous? Quelle est la force? Voyez-vous, Dieu décrit en disant, Moïse était l'homme le plus patient. Patient. On a tous besoin de patience. Sans patience, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas avancer. Donc, l'homme, s'appelait Moïse, était l'homme le plus patient. Certaines traductions mettent le plus humble. C'est juste, pour être humble, pour être patient, il faut avoir les deux qualités. Donc, vous n'avez qu'à lire le reste, je ne vais pas vous montrer ce qui s'est passé. Mais voyez-vous, une fois que ces deux sont révoltés, la seule façon de revenir en arrière, c'est de se repentir. Voilà pourquoi Dieu veut que nous nous repentions de nos péchés. Il fallait que Aaron et aussi sa sœur se repentent avant que Dieu leur pardonne. Marie a été frappée d'une lèpre. C'est une maladie terrible, comme vous savez. Donc, la seule façon Marie pouvait être guérie, c'est que Moïse prie pour elle. Voilà maintenant, par contre, comment nous-mêmes nous faisons les choses. Autrement dit, une fois que vous avez commis un péché, il faut que quelque chose ou quelqu'un paye pour ce péché. Ici, par l'aide que Dieu a accordée, par le repentir de Marie, certes, mais aussi par la prière de Moïse. C'est triste. Parce que, franchement parlant, pourquoi est-ce que cette femme, pourtant c'était une femme comme il faut, Marie, le frère de Moïse, pourquoi devrait-elle se rebeller? Pourquoi devrait-elle vraiment agir ainsi alors qu'elle avait aussi beaucoup de compréhension et que Dieu l'aimait? Voyez-vous, en parlant de notre nature humaine, l'apôtre Paul a écrit sur son inspiration divine, et c'est une vérité encore absolue que nous devons nous tous comprendre, apprécier et avancer. Romains 8, versets 7 à 8. Car l'affection de la chair, autrement dit, cet amour que vous avez pour vous-même, pour votre nature humaine, l'affection de la chair, dit-il, est inimitié contre Dieu. Il y a encore deux opposés. Vous avez encore deux maîtres. Vous devez choisir entre ces deux maîtres. Donc l'affection de la chair, dit-il, est opposée. C'est inimitié. Car l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Regardez bien cette phrase. Tâchez de comprendre. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous adresse. Ce sont les commandements. Lorsque vous mettez votre chair avant toute chose, automatiquement vous rejetez le reste, vous rejetez le commandement de Dieu. Je répète, donc, l'affection de la chair est une bêtise contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La rébellion. Voilà la rébellion dont nous parlons. Et qu'elle ne m'aime pas, ça c'est intéressant. Vous direz, si je ne peux pas, pourquoi Dieu me trouvera-t-il coupable? Eh bien, non, vous n'êtes pas coupable, parce que Dieu vous donne la force de lutter contre cette nature humaine. Nous tous, qui que nous soyons, nous pouvons lutter contre cette nature humaine si nous nous tournons vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, à travers Paul, elle ne le peut pas, à moins que Dieu nous donne cette force. Ensuite, l'apôtre Paul ajoute au verset 8, toujours Romains 8, regardez dans cette phrase, il dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, par ses désirs, ne sauraient plaire à Dieu. » Posez-vous la question, est-ce que je vis selon la chair? La réponse est simple, vous n'aurez qu'à examiner vous-même. Ce que vous faites, ce que vous dites, comment vous vous comportez, est-ce selon la chair ou bien selon la volonté de Dieu? Est-ce que vous faites ce que Dieu dit ou bien ce que vous voulez faire? Vous savez, en tant que ministre, j'ai parlé à pas mal de gens. J'ai conseillé pas mal de gens. Et je me trouve dans la conversation parce que j'ai la même nature qu'eux. Je suis humain. Mais je peux voir la route qu'ils prennent et que j'ai prise moi-même. Et je peux conseiller. Et je peux aussi voir leurs arguments. Pour autant que vous n'ayez pas passé par une épreuve, vous ne savez pas ce que c'est que l'épreuve. Voilà pourquoi je répète cette nature humaine dont l'apôtre Paul parle ici. Parfois, a besoin de faire de l'expérience. L'expérience, mes frères et mes sœurs, n'est pas le meilleur maître ou maîtresse, si vous voulez. L'expérience, c'est le plus cher maître. Là, vous payez vraiment dur. Dieu, en ce bon monde, nous aime tous et voudrait que nous puissions tous comprendre, l'apprécier et vraiment faire ce qu'il nous dit parce que ce faisant, voyez-vous, nous gagnons quelque chose, nous arrivons à quelque chose. Je suis vraiment, je vous dis franchement, de toute, je ne peux pas vous exprimer autrement, lorsque je parle aux gens, je me trouve dans la conversation ma propre image. Cette nature humaine veut faire l'expérience. On apprend parfois par l'expérience, et l'expérience, je dis, c'est la façon la plus chère d'apprendre. Continuons. Je disais que les trois pièges, un de ces trois pièges, c'est la rébellion. Et prenons la rébellion dans la famille. Quelle est la solution? Comment résoudre ce problème? Voyez comment l'apôtre Paul est décrit ici, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, où il compare et en même temps la famille physique et en même temps la famille divine. Il dit, Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, dit-il, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Voilà déjà l'approche. Voilà déjà la façon de décrire. Nous sommes, nous, soumis au Christ. Si nous avons le respect envers le Christ, nous devons avoir ce même respect envers dans la famille, la femme envers l'homme. Ce n'est pas facile. Non, parce que vous avez là encore deux têtes, deux intelligences, deux êtres. Mais la chose devient facile lorsque l'orgueil est repoussé, lorsqu'il n'y a pas d'orgueil. Et ici, l'apôtre Paul nous montre la raison pour laquelle nous devons avoir cette autorité, parce qu'on a besoin d'autorité partout. Dans tout ce que vous faites, vous avez besoin d'autorité. Car, dit-il, le mari, c'est verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Donc, voyez-vous, ne vous arrêtez pas, les femmes disent, « Oh non, le mari n'est pas le chef de la femme. » Vous avez raison. Le mari n'est pas le chef de la femme, à moins qu'on comprenne la comparaison. C'est marqué « comme Christ est le chef de l'Église ». Alors, comparez-vous maintenant au Christ, vous les maris. Comment est-ce que le Christ aime l'Église? Le Christ a donné sa vie. Comment est-ce que le Christ aime l'Église? Le Christ fait tout pour l'Église. Donc ici, l'apôtre Paul explique clairement que le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Son corps, dont il est le sauveur. C'est clair, on ne peut pas fermer les yeux. Le Christ est notre sauveur. De même dit-il, l'Église est soumise au Christ. Voilà. Si vous avez ça, vous les femmes, vous comprendrez. Vous comprendrez exactement ce que c'est que la soumission au Christ. Et vous ne serez pas rebelle en disant non, mon mari n'est pas supérieur, mon supérieur. Il n'est pas votre supérieur. Il n'est pas meilleur que vous. Seulement le rapport qu'il existe en tant que responsabilité, le mari doit agir comme le Christ agit dans l'Église. Et l'apôtre Paul ajoute ici en toutes choses. Certes, en toutes choses en Christ. Verset 25. Il parle maintenant au mari. Voyez-vous les femmes, vous qui m'écoutez. Regardez maintenant ce que le Christ dit au mari. Marie, dit-il, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Une fois encore, vous vous arrêtez. Comment est-ce que le Christ a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour l'Église, pour elle. Autrement dit, le mari doit être prêt à sacrifier sa propre vie s'il le faut. Voilà l'amour, le degré d'amour. Et une fois que vous comprenez ceci, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas l'un être meilleur que l'autre. Non, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous des êtres charnels, des êtres humains. Nous voulons croître, agrandir, marcher dans la voie que le Christ a tracée devant nous. Il dit, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Si le Christ n'était pas mort, vous ne seriez pas aujourd'hui vivant, ni moi non plus. C'est grâce au sacrifice du Christ que nous sommes encore vivants, que nous avons l'espoir de la vie éternelle. Donc, afin de sanctifier le Christ en ce qui concerne l'Église, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Ici, nous entrons dans notre sujet, mais pour pouvoir vraiment appartenir au Christ, c'est de se repentir, de se faire baptiser, de recevoir le Saint-Esprit, et c'est ainsi que nous pouvons vraiment être au Christ. Pourquoi il a fait ça? Afin de faire paraître devant lui cette Église, et nous sommes l'Église, je suis l'Église. Voyez-vous, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous faites partie de l'Église. L'Église se compose de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est pour l'Église que Dieu, le Christ, a donné sa vie, pour que l'Église soit sans tache ni ride, etc. Ensuite, au verset 28, voyez-vous, l'apôtre Paul groupe tout ça. Il dit, c'est ainsi, dit-il, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime aussi lui-même. Je peux en parler davantage, mais ça c'est la base. Je prends maintenant ici l'autorité dans l'Église. Il ne doit pas y avoir de rébellion de part et d'autre. C'est ici les enseignements du Christ. C'est ici les instructions que le Christ nous donne. Comme vous pouvez le constater, si nous, nous nous mettons à genoux, si nous, nous prions Dieu, si nous, nous demandons à Dieu de nous montrer comment vraiment sortir de cette nature charnelle, de ce sentiment de rébellion, nous aurions une meilleure vie, une meilleure famille. Dieu, voyez-vous, nous parle dans la famille, puisque je parle de famille, même les enfants. Regardez autour de vous aujourd'hui, de par le monde. Où sont les enfants? Comment est-ce que les parents aiment les enfants? Comment est-ce que les parents guident les enfants? Comment est-ce que les parents enseignent à leurs enfants? Combien de parents y a-t-il en ce bon monde qui enseignent à leurs enfants de prier, qui enseignent d'être reconnaissants, qui enseignent d'obéir aux lois divines? Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en pleine rébellion. Vous savez, il est facile de critiquer. Parce que lorsqu'on critique, comme l'exemple d'Adam et d'Ève, on s'accuse l'un l'autre. Lorsque Dieu a demandé au premier couple qu'est-ce qui s'est passé, le mari blâmait sa femme blâmait le serpent, etc. Ce désir d'accuser, c'est tout à fait humaine, je dirais, mais humaine en même temps sous l'inspiration de Satan, le diable. Alors, quelle est la solution? Je dirais, respecte l'autorité. Ce n'est pas dit que l'autorité humaine sera toujours dans la bonne voie ou bien aura toujours raison, non. Mais si vous respectez, vous faites votre part, Dieu fera toujours la sienne. Dieu a dit dans Éphésiens chapitre 6, en ce qui concerne les enfants, je cite, verset 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents. » Voyez-vous, ça revient. « La rébellion est votre ennemi numéro un pour vous éloigner de Dieu. » Enfants, dit-il, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. Autrement dit, l'enfant doit toujours obéir à ses parents pour autant que les ordres de ses parents sont conformes à la volonté de Dieu. Honore ton père et ta mère, verset 2, Éphésiens 6. C'est le premier commandement avec une promesse. Une promesse qui vivront longtemps, les enfants. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Ensuite, Paul parle au père. Regardez voir. Et vous, père, dit-il, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi cette phrase? Parce que les parents, et surtout l'homme, le père, a souvent tendance de perdre patience. Donc, en perdant patience, il irrite les enfants. Et le vénère, dit-il, en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Ce petit membre de phrase, selon le Seigneur, c'est la clé. Donc, tout ce que vous faites, demandez-vous, est-ce ainsi que Dieu voulait que je fasse? Est-ce ainsi que Dieu veut que je parle? Est-ce ainsi que Dieu veut que je me comporte? Voilà. Et ne raisonnez pas comme vous-même, raisonnez comme la Bible raisonne. Alors vous êtes toujours sur la bonne voie. Ce n'est pas facile, je sais, parce que c'est contre cette lutte que nous avons contre nous-mêmes et aussi contre Satan. Mais si vous êtes honnête, vous verrez que lorsque vous demandez à Dieu, « Est-ce ainsi que tu veux que j'agisse ?» Vous verrez que Dieu vous montrera. Voilà pourquoi, je répète, nous, les parents, nous devons agir de façon à ne pas irriter nos enfants, à ne pas les faire vouloir poser des questions, parce qu'ils savent que lorsqu'ils posent des questions, nous leur répondons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des parents, lorsque les enfants en posent des questions, « Écoute, je n'ai pas le temps », diront-ils. Non, vous devez toujours avoir le temps pour répondre aux questions de vos enfants. Absolument. Ces questions peut-être sont bêtes pour vous, mais ce ne sont pas des questions bêtes pour eux. De votre façon de répondre, ils comprendront comment Dieu répond à leurs besoins. Autrement dit, votre responsabilité est grande. Dieu veut que nous puissions avoir cette sorte d'obéissance envers tous, dans la famille, comme je viens de vous dire, et aussi dans le travail que vous faites. Voyez-vous, prenez Romains 13, versets 1 à 2. Ici, Paul parle d'une nation, de chacun de nous. Nous sommes des citoyens d'un pays. Paul écrit, Romains 13, verset 1 à 2, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Alors, voilà une phrase difficile à avaler, je répète. Vous voyez, les autorités supérieures, elles ne sont pas toujours dans la bonne voie. Elles ne font pas toujours ce qu'elles devraient faire. Vous pouvez voir de la corruption dans tous les pays, dans les autorités. Alors, puisqu'ils sont mauvais, nous pouvons être rebelles? Non. Vous faites votre part. Dieu prendra soin si eux-mêmes ne font pas leur part. Mais voyez-vous, si vraiment vous comprenez que vous vous soumettez à l'autorité, parce que Dieu prendra soin d'elle, dès ce moment-là, vous êtes libéré de cette certitude, de cet esclavage qui vous impose votre nature humaine. Verset 2, il dit, « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Là encore, c'est intéressant. Parce que Dieu a mis de l'ordre, a établi l'autorité. Si certains ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est à Dieu d'en prendre soin. Et Dieu prendra soin, je vous assure. Un peu plus loin, 1 Timothée chapitre 2, voilà encore une autre vérité qui en sort. Paul dit, j'exhorte donc de 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, dit-il, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour vos parents? Oui. Pour vos enfants? Oui. Pour vos compatriotes? Oui. Mais ce n'est pas tout. Il dit, pour tous les hommes. Voilà un secret. Pour tous les hommes, même pour vos ennemis. Vous dites, mais ça n'a pas de sens. Mais si, ça a de sens. Regardez voir. Du reste, l'apôtre Paul explique. Il continue, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Pourquoi même prier pour eux, alors qu'ils sont en pleine dégénérescence, mettons? Pourquoi prier pour nos ennemis? Ce mot « pourquoi » est très important, vous savez, parce que souvent, on laisse tomber ce « pourquoi », on ne continue pas. Dieu continue. Il dit, afin que, dit-il, voilà, pourquoi, nous menions une vie paisible. Tiens, tranquille. Autrement dit, si je ne touche pas mon ennemi, je vis une vie tranquille. Si je n'accuse pas, si je n'attaque pas, je vis une vie tranquille. Donc faites votre part, Dieu prendra soin du reste. Vous et moi, nous devons mener une vie paisible, tranquille, en toute piété, en toute honnêteté. Ces petits mots, voyez-vous, sont importants. Il faut que nous puissions, nous, être honnêtes devant Dieu, agir devant Dieu et être vraiment reconnaissants à Dieu. Lorsque vous constatez que ce qui se passe autour de vous, vous ne pouvez pas vous-même résoudre la situation, et lorsque ce monde, à l'heure actuelle, s'est déjà détourné de Dieu, et si vous vous comportez comme eux, vous tomberez comme eux. La seule façon, je répète, c'est d'avoir la protection divine, c'est de marcher main dans la main avec le Christ. Nous avons, voyez-vous, toujours cette base. Satan, le diable, fera tout pour vous faire détourner de Dieu. Donc, dans cette rébellion, Satan chercherait des excuses, chercherait des raisons pour lesquelles vous penserez que vous avez raison de vous rebeller contre Dieu, que vous avez raison de vous rebeller contre votre mari, contre votre femme, contre vos enfants, contre vos employeurs, etc. Voilà comment Satan réagit. Et Satan est très rusé. La seule façon, je répète et je répéterai, de résister contre les désirs de Satan, c'est de vous soumettre à Dieu. C'est ce que dirait Jacques a dit, Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8, je cite son épître, Jacques 4, 7 à 8, « Soumettez-vous donc à qui ? À Dieu. Résistez au diable. Voyez-vous, il fuira loin de vous. » Ce n'est pas tout à fait la façon dont les gens raisonnent. Voyez-vous, les gens pensent que la seule façon de vraiment faire votre part, c'est de lutter contre Satan. Non, fuyez l'influence de Satan. Si quelque chose vous tente, écoutez, éloignez de vous. Dites-vous, comme je dis, qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place? Et vous verrez, le Christ a pardonné à ceux qui lui ont offensé. Sur la croix, il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai connu, vous savez, dans ma vie, des gens qui avaient cette attitude. J'ai connu des gens qui... C'était beau de voir comment ils étaient soumis au Christ et qui imitaient en toutes choses la voie à suivre. Comme l'apôtre Jacques a dit, Jacques 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comment vous résistez au diable? C'est simple, encore une fois, en faisant ce que le Christ vous dit, et non pas ce que votre nature humaine ou le diable voudrait que vous fassiez. Et comment vous arrivez à faire cela? Vous arrivez en vous soumettant à ce que l'apôtre Jacques a dit, verset 8, Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu. » Ce mot « approche » est important, mes frères et mes sœurs, parce que nous devons vraiment comprendre comment Dieu aurait réagi. « Approchez-vous de Dieu. » Et il s'approchera de vous. C'est une promesse. Dieu ne ment pas. Dieu vous dit qu'il s'approchera de vous lorsque vous faites votre part. Croyez-y, soumettez-vous à cet ordre et allez de l'avant avec force. Nettoyez vos mains, dit-il, vous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, nous avons parlé jusqu'à maintenant de la rébellion. Vous savez quoi? L'orgueil joue un rôle important dans la rébellion. Si vous êtes orgueilleux, et nous le sommes tous, automatiquement, donc, nous avons cet esprit de rébellion, nous voulons faire les choses à notre façon. Méfiez-vous de l'orgueil. Je viens de montrer comment l'apôtre Jacques a dit, comment nous devons faire en ce qui concerne nous approcher de Dieu. Laissez-moi continuer encore, peut-être avant de terminer, juste la dernière partie de ce premier piège. Jacques, chapitre 4, versets 4 à 6. Jacques 4, 4 à 6. « Adultère que vous êtes, dit-il, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Voilà comment on peut vraiment tomber dans les pièges de Satan. L'amour du monde, ce qui se passe autour de vous, regardez voir les cabarets, les saletés, les adultères, les crimes, les fruits de la rébellion. Tout ça, voyez-vous, nous fait aimer davantage ce genre de choses et nous fait détourner de Dieu et qui nous rend adultères, pour ainsi dire. Celui, dit donc, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Laissez-moi encore vous répéter cette phrase. Celui qui veut être ami du monde, ami de ce sens que passer le temps avec eux, faire ce qu'ils font, automatiquement, vous vous rendez ennemi de Dieu. Voilà comment arrêter ce premier piège. C'est important. Il dit, croyez-vous, dit-il, que l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, parle en vain? Non, tout ce que vous trouvez dans la Bible, ce n'est pas en vain. Donc, lisez la Bible, quels que soient vos problèmes, vos défis, et voir où sont les réponses. Jacques dit très clairement, croyez, dit-il, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? La Bible a toujours vos réponses. La Bible a toujours la clé. La Bible a toujours la façon d'ouvrir des portes, de répondre aux questions, à condition que vous respectiez ce que Dieu vous dit dans la Bible. Ça, c'est important. Et croyez-vous que l'Écriture parle en vain? La foi, voyez-vous, c'est la foi. Nous devons savoir que si nous aimons Dieu, et nous devons aimer Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre solution, Dieu nous bénira, Dieu nous guidera, Dieu nous protégera. Écoutez, je vais ici m'arrêter, mais avant de m'arrêter, je vous prépare pour la suite de ce sermon. J'ai parlé dans ce sermon que nous avons trois ennemis. Satan, le monde autour de nous, et aussi notre nature humaine. Mais j'ai mis l'accent sur trois pièges que ces trois ennemis, combinés ou séparés, nous font du tort. Autrement dit, le premier piège dont je vous parlais, et je vous parle encore avant de terminer, c'est qu'il y a cet orgueil, il y a cette rébellion. La rébellion est la base même de la perte de notre salut. Le premier couple a perdu le salut à cause de leur insoumission, de leur vanité, bref, de l'orgueil. Voilà pourquoi j'ai mis l'accent sur l'orgueil. Parce que l'orgueil est une conséquence de la rébellion. Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde où tout est inspiré par Satan le diable pour nous rebeller contre la loi, pour nous rebeller contre l'autorité, pour repousser les commandements de Dieu, en famille, en nation, dans le travail. Et je vous dis franchement, lorsque vous vous examinez vous-même, lorsque vous dites « Pourquoi les choses ne vont pas aussi bien chez moi que j'aurais désiré ?» Lorsque vous regardez tout ça, vous comprendrez pourquoi, peut-être, vous n'êtes pas heureux. Pourquoi vous avez des difficultés? Pourquoi? Parce que vous avez fait un mauvais choix et vous vous y accrochez. Plutôt que de vous demander, comme je dis, et je le dirai toujours, demandez-vous, qu'est-ce que le Christ ferait à ma place? Comment est-ce que le Christ respecterait la situation? Ou bien donc, le gouvernement autour de moi, ou bien au-dessus de moi? Ensuite, lorsque vous avez reçu la réponse, et ça, c'est le secret, lorsque vous avez la réponse, ce que le Christ aurait fait, mes frères et mes sœurs, faites de même. C'est ça qui compte. Beaucoup de gens prient, après avoir prié, après avoir reçu la réponse, ils se tournent derrière, ou bien ils se détournent. Ils tournent le dos. Non, ne faites pas ça. Si vous voulez vraiment plaire à Dieu, vraiment vaincre vos trois ennemis, vaincre ce piège dont je vous ai parlé le premier, et je continuerai la prochaine fois, faites ce que Dieu vous inspire et vous dit, et vous donnera toute l'aide dont vous avez besoin pour aller de l'avant jusqu'au bout.